Donc, je pense qu'ils devront respecter au moins la personnalité de M. Diom Soro, bénéficie de l'immunité au moins.
Salif,
je voudrais seulement vous expliquer une chose. C'est-à-dire que ce n'est pas la France en tant qu'exécutif qui a lancé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro.
Ça ne vient pas du gouvernement français.
N'oubliez pas que ce sont les soldats français qui ont participé même d'une certaine manière à l'arrestation de Laurent Gbagbo après cette crise électorale qui a fait 3000 morts. Depuis, la France est revenue en force en Côte d'Ivoire. C'est le premier bailleur de fonds économiques, Alassane Ouattara, qui est le président, il le sait très très bien. La France ne va pas s'aventurer en tant qu'exécutif à venir arrêter M. Guillaume Soro. C'est un de leurs principaux alliés dans la sous-région. Donc c'est une juge, je crois, qui peut-être a fait de l'excès de zèle pour défendre un citoyen français qui en est allé jusque-là. La preuve, il a fallu qu'on tire les bretelles à l'ambassadeur de France à Abidjan pour qu'elle abandonne son mandat d'amener.
Voilà.
Mais malgré tout, on parle de la France.
Oui, on parle de la France parce que ça s'est passé sur le territoire français.
Si elle fait ça au nom de la France.
Non, elle le fait au nom de sa magistrature, elle le fait en tant que juge.
Voilà, elle le fait en tant que juge, mais ça ne veut pas dire qu'elle ait eu l'aval du gouvernement français qui a reçu M. Guillaume Soro pour l'amener au Bourget. Et je suis sûr que Guillaume Soro n'est pas parti au Bourget en métro ni en taxi, j'en suis absolument certain. Donc il est venu là-bas pour parler de la conférence sur le climat et que je pense que rien ne s'est passé, c'est de l'agitation d'une juge.
Voilà, merci en tout cas pour votre... Pour avoir exprimé votre point de vue et puis restez à l'écoute et n'hésitez pas à rappeler si vous souhaitez ajouter des éléments à ce que vous venez de nous apporter. Belle soirée à Abidjan. Un autre auditeur est en ligne au standard de VO Afrique et il s'appelle Bakary Keïta. Bonsoir.
Ah, bonsoir.
Vous êtes le bienvenu, Bakary.
Ok, salut, ravi. Moi, je crois que Guillaume Soro ne devait même pas mériter quand même une telle sort.
C'est trop fort. C'est trop.
Michon. Ah, ouais, c'est trop. Parce que c'est quand même une forte personnalité quand même de l'État ivoirien. Donc, il ne devait pas mériter ça. Quand le gouvernement français doit empêcher quand même des actes quand même de ce genre. Sinon, vraiment, ça montre que vraiment, on est en train de faire quand même justice à des vitesses. Parce que si vous vous rappelez, notre ancien ministre de la Défense, Boué Maïga, aussi était placé en garde à vue en France.
Oui.
Donc, pour moi, quand même, c'est des situations quand même déplorables, quoi.
En même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a affaire à des gens qui certes sont des dignitaires et des représentants d'un État, d'un pays, mais qui sont aussi et qui peuvent commettre des exactions en tant qu'humains ? Et qu'il faut bien qu'ils soient jugés, non ?
Oui, à part Dieu, nul n'est parfait. Souvent, il y a aussi des présomptions quand même d'innocence. Hein? Donc, si vous êtes quand même en mission d'État, moi, je crois qu'il n'y a pas quand même, doit pas avoir quand même l'objet quand même d'une arrestation ou bien d'une convocation ou bien d'une garde à vue.
Donc, Bakary, ce qui vous choque, c'est qu'un représentant de la Côte d'Ivoire, en fonction, envoyé, mandaté par son pays pour représenter les Ivoiriens dans un événement international, soit comme ça traité comme un va-nu-pied. C'est ce qui vous dérange et qui vous choque.
Voilà, c'est cela quand même qui me dérange beaucoup. À mon avis, dans la condition quand même légale, quand même sa convocation quand même devait passer quand même par le ministère quand même des Affaires étrangères.
C'est ce qu'Idriss Fall disait tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre incise et pour avoir partagé votre point de vue avec nous. Belle soirée à vous. Alphonse Mbouaké, bonsoir.
Alphonse Mbouaké.
Alphonse Mbouaké. Ouais,
mon cher ami de Kinshasa, comment allez-vous?
Ça va bien, parfait. Et vous, je pense que ça marche.
Superbe. Allez-y pour votre question.
Alors, est-ce que vous avez une question?
Je voulais parler de la présomption d'innocence qui est un principe de droit. Allô?
Oui.
Oui, on vous écoute.
Alors, Emmanuel Amenel est lancé par la juge d'instruction, Sabine Ferris, n'a pas tenu compte de la protection de l'innocence. C'est un simple principe de droit, si elle est ignorante de ça. De ça ou bien comment? Et puis, je ne comprends pas la justice, même si elle est privée. Mais si l'État n'est pas concerné à tout à fait, c'est une justice privée, indépendante, mais vraiment, elle doit respecter les officiels qui sont les officiels étrangers. Est-ce que c'est juste colonial ou bien c'est basé sur la colonisation ou bien ne respecte pas les pays africains?
En tout cas, cette juge, pour le moment, Idriss, cette juge fait l'unanimité contre elle auprès de nos auditeurs.
Non, je sais qu'il y a eu.
C'est le retour de la colonisation.
Non, pas du tout. Je ne crois pas. Il y a eu peut-être une méconnaissance des relations diplomatiques, une méconnaissance des accords de Vienne, une méconnaissance de la question de l'immunité. Et c'est peut-être par cette méconnaissance qu'après que la Côte d'Ivoire ait tiré les bretelles à l'ambassadeur, qu'immédiatement, presque immédiatement, le mandat d'amener a été abandonné. Donc,
On peut quand même s'étonner avec nos auditeurs de ce qu'une juge d'instruction ne connaisse pas. Des éléments nos auditeurs, eux, connaissent.
Mais un magistrat, c'est un magistrat. On vient porter plainte et qu'on lui saisit un dossier, elle ouvre le dossier, elle le poursuit.
Est-ce qu'on peut imaginer, vous pensez qu'elle aurait réagi de la même manière face à un premier ministre américain ou canadien ou
je ne sais pas, je n'ai pas encore entendu de plainte déposée à Paris.
Mais c'est bien ce qui pose problème.
Mais là, il ne faut pas oublier que c'est le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo. Et il était là quand on a arrêté son père. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles son père, vous rappelez,
Images circulent.
Et beaucoup de pro-Gbagbo aussi n'ont pas encore oublié cette affaire, ne l'oublions pas. Et parmi eux, le premier, c'est le fils qui s'appelle Michel Gbagbo.
Donc c'est à la fois son honneur à lui et celui de son père d'une certaine manière.
Et en plus même, je crois que comme Guillaume Soro a été le patron de la rébellion, les Forces Nouvelles, c'est Guillaume Soro qui a été le premier ministre pendant longtemps après les accords de Marcoussi. C'est Guillaume Soro qui deviendra presque le bras armé de Alassane Ouattara et que ministre de la Défense. Et pour la famille Gbagbo, c'est Guillaume Soro, c'est l'ennemi à abattre ou bien à salir et faire tout ce qu'on veut.
Et
tous les moyens sont bons. Mais tout le monde savait que amener le président d'une assemblée nationale de Côte d'Ivoire, premier partenaire économique de la France en Afrique, et le faire asseoir devant un juge, même moi qui n'y connais rien en droit, je sais que ça n'irait pas loin.
Il y a quand même un problème dans les connaissances.
Mais ils le savent, mais quand même. Rien que le fait que les gens en parlent. Tout le monde en parle. Le simple fait de lancer un mandat d'amener, tout le monde en parle, ça fait...
Et donc, ça porte quand même une ombre, entache un peu la figure du personnage visé.
Absolument.
Le Standard, évidemment, fourmille de vos appels. Et nous sommes en ligne maintenant avec Christian Gérabé. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
D'où nous appelez-vous, Christian?
Je suis en Amène au théâtre.
Pardon?
Je vous appelle de Ndjamena au théâtre.
D'accord, très bien. Vous êtes le bienvenu. Est-ce que c'est une question ou
un commentaire.
Un commentaire que vous souhaitez apporter?
C'est juste pour donner un commentaire par rapport au mandat d'arrêt lancé par la France.
Je vous en prie. Mais est-ce que vous avez entendu qu'il a été abandonné depuis,
Ah, là, je n'ai pas entendu.
Voilà, le mandat d'amener a été abandonné.
Ah ok, si j'ai abandonné, c'est bon, parce que j'ai un commentaire par rapport à ce que les Africains sont contre le mandat lancé par Guillaume Soro. Lancé par la France contre Guillaume Soro.
Vous vous élevez contre?
C'est tout à fait normal.
Ah.
Parce que la politique africaine est dirigée par la France, donc la France a tout le monopole de décider tout ce qui se passe en Afrique. Donc moi, je ne vois pas le moment où il devait aller répondre. S'il est coupable, il serait condamné. S'il n'est pas coupable, il serait libéré.
Et la souveraineté, qu'est-ce que vous en faites?
Oui, mais c'est comme si la
France... Est-ce qu'il appartient à la Chine de juger les exactions d'un Japonais à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté?
La souveraineté n'a plus maintenant sa valeur parce que la France a déjà violé la souveraineté ivoirienne.
Idriss Fall.
Non, mais dans cette affaire-là, ce qu'on ne dit pas, c'est que M. Michel Gbagbo, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire avec son père.
Oui.
Donc, s'il a la nationalité ivoirienne, les faits se sont passés à Abidjan. Pourquoi il ne va pas porter plainte à Abidjan? Est-ce qu'il a déjà essayé? En tout cas, je n'ai pas entendu ses avocats le dire. Comme ce sont beaucoup de gens qui font des plaintes à Paris sur les biens mal acquis de je ne sais pas qui, à Brazzaville ou au Gabon, s'il y a des juridictions, à moins qu'on n'y croit pas ou bien qu'on pense que ça n'ira pas lire, mais autant tenter le coup parce que...
Visiblement, il n'y croit pas lui. En tout cas, merci beaucoup pour votre réflexion, Christian. Et n'oubliez pas, voilà, le mandat d'arrêt n'est plus valable.
Le mandat d'amener
n'est plus valable, mais les questions subsistent quant aux actions et aux pensées de cette juge et aux standards de VOA Afrique. Les appels continuent. Nous sommes en ligne, cette fois-ci, avec Rodrigue Bokito. Bonsoir.
Bonsoir.
Rodrigue, vous avez une question ou un commentaire? Allez-y, nous vous écoutons.
Bon, j'ai quelques commentaires à faire à propos des mandats d'arrêt lancés contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Le mandat d'amener.
Le mandat d'amener.
Mandat d'amener.
Pardon?
C'est un mandat d'amener.
Contre... Pardon?
Allez-y.
Ah bon. Moi, je me suis posé des questions. Mmh. Est-ce que l'Afrique est vraiment un continent souverain comme on prétend, ou bien l'Afrique n'est pas souveraine? Parce que toujours la France, toujours les Occidentaux qui viennent lancer le mandat d'arrêt en Afrique contre les Africains. Alors, où est les juridictions africaines pour trancher les dossiers qui se passent en Afrique? Là, moi, j'ai un peu de lacune. Comment comprendre cela?
Je vous explique une chose. C'est-à-dire que la France a une justice indépendante. Le tribunal pénal international, c'est un autre cas. C'est-à-dire que le tribunal pénal international, ce sont des pays africains qui sont partis à Rome signer un traité qui met en place ce tribunal. Maintenant, beaucoup d'Africains se demandent pourquoi ce tribunal ne poursuit que des Africains. Ça, l'Union africaine même est contre, avait même lancé un mot d'ordre en disant il faut qu'on quitte. Donc ça, c'est une question qui est là-bas, qui n'a rien à voir avec la France. Voilà, et que sont les Africains qui pensaient que ça permettrait de régler des affaires
difficiles à régler sur le territoire.
Mais vous voyez que depuis même Omar el-Béchir a été inculpé,
rien ne lui a été fait.
Le président du Kenya est parti, il n'y a pas eu assez de preuves, on l'a laissé repartir. Donc c'est deux questions différentes. Ce n'est pas la justice française qui est en train de juger un dignitaire français. C'est un citoyen français qui a porté plainte en France et ça n'a rien à voir avec l'exécutif français. Ce n'est pas la France dans cette affaire. Je pense que cette juge-là qui faisait de l'excès des ailes, je suis presque certain qu'elle s'est fait plus ou moins ramener à l'ordre pour qu'elle enlève son mandat d'amener. Mais ce n'est pas un procès de la France contre les Africains. Il faudrait que ce soit encore plus clair.
Une mise au point absolument nécessaire, absolument nécessaire. C'est vrai qu'on a tendance à mélanger tout, mais en même temps, Idriss, on peut comprendre que pour le Vulgumpekus africain, pour l'homme du peuple africain, il voit le tribunal pénal international qui juge uniquement des chefs d'État africains. Il voit une juge française qui peut se permettre, comme ça, de lancer un mandat d'amener à l'encontre d'un représentant d'un peuple venu d'Afrique. Et l'inverse n'est jamais vrai. Et ça n'est jamais vrai ailleurs.
Là, je me permets de donner mon propre point de vue.
J'y compte bien.
C'est-à-dire que, vous savez, si on prend l'affaire Hissen Habré, il y a eu des pressions, il y a des gens qui sont partis porter plainte à Belgique, la Belgique a transmis là-bas, ainsi de suite. On refile le bébé Habré au Sénégal qui juge une fois après, qui dit que je ne peux pas, l'Union africaine s'en mêle et on a mis en place un tribunal à Dakar pour le juger. Mais l'autre aspect que les gens ne disent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG mondiales qui vivent sur ce vivier-là. Beaucoup.
Et il est très important de le souligner.
Voilà, c'est un bon business et que ça marche. Alors que tout le monde sait qu'il y a eu des milliers de civils qui ont été tués en Afghanistan et en Irak. Il y a eu je ne sais pas combien de Palestiniens qui sont morts en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mais ceux-là, jusqu'à présent, ils vivent tranquillement. Mais l'Afrique, quand même, c'est devenu un vivier pour certaines ONG mondiales qui parlent sur les radios internationales et que les gens écoutent. J'ai même entendu aujourd'hui une ONG donner des leçons de conduite à un président élu de la Côte d'Ivoire pour lui donner quelles doivent être ses priorités. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que les Africains apprennent à répondre à ces ONG qui viennent, qui vivent de l'Afrique et qui ne lui rendent pas service.
Mais alors concrètement, ceux qui nous écoutent ont besoin de faire la part des choses, séparer le bon grain de l'ivraie, ils font comment?
Mais il faudrait que en Afrique aussi, le règne de l'impunité, que les juges eux-mêmes puissent prendre ça en charge. C'est-à-dire que vraiment...
Vous savez comme moi, Idriss, que l'intimidation peut aller très très loin.
Oui, mais quand même...
Ah, la vie est tout de suite en
jeu.
Quand même, si on reçoit des menaces de mort, comment on fait?
Je connais par exemple au Niger, j'ai connu des juges qui ont eu le courage de dire non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faudrait que les gens commencent quelque part. Il faudrait que même si ce n'est qu'un seul juge qui dise non à l'impunité dans un pays donné, ça aide à renforcer le système judiciaire en Afrique. Et tant que ça n'aura pas lieu, ces ONG vont chaque fois venir aussi avec leur rapport et que les gens se font l'écho et ça fait plus de pression. Et entre-temps aussi, il y a des injustices, il y a des violations des droits de l'homme un peu partout sur le continent et personne ne fait rien. Donc, il faut mettre fin à l'impunité et ce sont les juges africains qui devrait se charger de faire cela.
Mandat d'amener à l'encontre de Guillaume Soro, c'est le thème de notre échange interactif ce soir et vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Comme Ouédraogo Youssouf, bonsoir.
Oui, bonsoir. La liberté, ici au moins, la liberté est un droit bien respecté de tous et en tant qu'Africain, je m'en réjouis et je remercie la VOA Afrique.
Merci beaucoup Youssouf.
Merci à vous Youssouf.
Et Ouédraogo, j'imagine que c'est du Burkina.
Oui,
pas très difficile. Partout, hein.
Mais je suis précisément en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro.
D'accord.
Moi, je suis pour la liberté ou pour la justice, pour tous, sans exception, y compris celui de Michel Gbagbo et Guillaume Soro. Mais je suis contre la justice discriminatoire, sélective ou colonialiste. Comment Guillaume Soro, président d'une institution républicaine et en mission officielle, qui jouit à cet effet d'une double immunité peut être aussi délibérément agressée par une puissance étrangère, bien que individuelle, dit-on, en violation des normes internationales en vigueur.
Youssouf, Youssouf, permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous savez que ce mandat d'amener a été abandonné, qu'il n'est plus effectif?
Oui, je sais, mais le drame, c'est que cela ne nous...
Mais ça vous choque quand même. D'accord, d'accord.
Moi, j'imagine mal voire même un conseiller municipal français ou européen se fait subir de la sorte en Afrique, c'est inacceptable.
Alors comment expliquez-vous cela? Comment vous l'expliquez ça? Comment vous l'expliquez, Youssouf?
Écoutez, moi je pense que c'est ce qui nous est servi depuis les indépendances à aujourd'hui. Et aujourd'hui, si Guillaume Soro en a été victime, d'autres en ont passé par là. Il y a par exemple le Maroc, il y a le Gabon, il y a le Rwanda. La liste est vraiment longue, mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. On ne peut pas continuer.
Youssouf, je suis en partie d'accord avec vous et je dis la réponse. C'est ce qui est en train de se passer au Burkina Faso maintenant. Il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Sankara qui a été tué en octobre 1987. Et aujourd'hui, la justice burkinabé est en train d'inculper quelqu'un qui s'appelle Gilbert Diendéré. C'est un début, n'est-ce pas? Donc, si la justice burkinabé a le courage d'aller jusqu'au bout après 27 ans d'enterrement de la vérité, de l'ensemble des balles qui ont criblé le corps de Thomas Sankara, donc c'est ça la lutte contre l'impunité et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que tenir tous ceux qui ont tué Thomas Sankara, les juger, s'ils sont vraiment coupables, les mettre là où il le faut. Donc je pense que ça ne fait que commencer, il y a des balbutiements.
Mais on va dans la bonne direction, nous dit Idriss. Allez, un dernier auditeur, merci Youssouf Ouédraogo à Yamoussoukro. Dernier auditeur, Abdoulaye Cissé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes le bienvenu et vous avez 30 secondes.
Oui. Bon, en fait, je vous remercie de votre bienveillance. Je crois que mon prédicateur, là, il a tout dit, quoi, vraiment.
Bon, alors au moins, on vous aura salué.
Oui.
Merci beaucoup et belle soirée à vous. D'où nous appeliez-vous?
Bamako.
Bamako.
Bamako, Mali. Bonsoir à nos
bonsoir
amis
à
maliens.
Bamako.
Merci
et à tous nos amis qui sont au Grand
Merci
Hôtel, bien sûr.
Merci, Idriss, et pas que, partout. Merci, Idriss Fall.
Merci, Anastasia.
Rendez-vous à bientôt pour un autre appel interactif. Merci à Joselle Morissin, qui était à la réalisation.